Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'est Julie Gerbet du podcast À Poil et avant d'écouter votre épisode, j'aimerais partager avec vous, mes chers auditeurs, restaurateurs, entrepreneurs, dont l'emploi du temps est millimétré et les finances mises à mal par l'inflation, ma découverte d'une solution assez idéale, je dois dire, en cas de besoin express de cash. Lancée par BPI France, la banque d'investissement française soutenue par l'État, les prêts flash permettent d'emprunter en deux temps trois mouvements, en ligne et sans paperasse superflue, jusqu'à 75 000 euros, avec un déblocage des fonds en 7 jours. Rénovation énergétique, innovation, développement marketing ou renfort de trésorerie, tous les besoins sont bons. Alors rendez-vous sur flash.bpifrance.fr.
Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir...
Bonjour et bienvenue dans À Poil, le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet, la créatrice et hôte de ce podcast, et aujourd'hui j'ai le plaisir d'interviewer Pascal Barbeau et Christophe Roy.
Tous les produits peuvent être nobles, tous les produits ont besoin d'être respectés, ça c'est très important. Un maraîcher passe tellement de temps à faire pousser ses légumes, ses herbes, c'est un travail titanesque. Un producteur de miel, un producteur d'agrumes, ça représente une somme de travail colossale, un savoir-faire colossal, et donc on doit respecter le travail de ces gens, ça c'est très important. On va s'appuyer, ça c'est vraiment notre noyau, c'est le noyau dur de la Strance, c'est le réseau des producteurs, ça c'est sans eux on n'est rien, ça c'est très important. Et on va justement, là où je suis content et fier, c'est on va cuisiner pour un plus grand nombre de clients, donc je pense qu'on pourra encore plus soutenir nos producteurs, donc ça c'est une fierté.
Pascal Barbeau et Christophe Roy ne forment qu'un derrière le restaurant à Strance. Après plusieurs longs mois d'absence, revoilà le duo phare à la tête de leur tout nouveau, tout beau restaurant, fraîchement déménagé rue de Longchamp, dans le 16e arrondissement parisien. Un changement d'adresse synonyme de changement d'envergure, mais pas de philosophie. Cette cuisine sensible, où tous les produits sont égaux, cet art de recevoir avec humanité et simplicité, ils vont pouvoir, entre ces murs, continuer à les développer avec leur bienveillance légendaire. Avec Pascal et Christophe, nous avons parlé de complicité des équipes, de température de service des plats et d'indépendance. Le partenariat avec Elle à Table continue sur le site elle.fr où vous pouvez retrouver chaque nouvel épisode 48 heures avant sa sortie sur les plateformes habituelles. Bonne écoute. Bonjour Pascal, bonjour Christophe. 20 ans passés à la tête de la Strance, plus de 10 années de 3 étoiles, une renommée internationale et puis ce déménagement, ouvrir un nouveau lieu, c'était un moyen de se réinventer, de se laisser tenter par une nouvelle aventure.
Complètement, en fait, l'histoire de la Strance rue Beethoven, ça a duré 20 ans. Depuis plus de 6 ans, on était à la recherche d'un nouveau lieu, donc on a visité une trentaine d'adresses différentes. On avait vraiment le souhait avec Pascal de rester dans le 16e arrondissement. Donc c'était visite sur visite sur visite avec jamais le coup de cœur. Et on a eu le coup de cœur en visitant donc le Jamin au 32 rue de Longchamp dans le 16e arrondissement.
Donc c'était un projet de long terme, mais enfin de quelques années en tout cas.
C'était surtout à la base, c'était l'idée de déménager pour avoir un plus grand local. Et à un moment, on était un peu dans le doute parce que justement, on ne trouvait pas. Et on avait le projet de refaire tout le restaurant rue Beethoven, mais on restait quand même dans les mêmes murs avec la même superficie de 120 mètres carrés.
Et finalement, le local ici est arrivé au bon moment.
Absolument, avec une petite anecdote, c'est que quand on a acheté le restaurant avec Pascal rue Beethoven, donc il y a 20 ans, on a fêté l'achat au Jamin. Ici, avec un couple d'amis. Comme quoi, le hasard parfois fait bien les choses.
2020, c'était censé être l'année du renouveau, 20 ans après l'ouverture de la Strance. Et puis, le Covid est passé par là. J'imagine que ça doit être frustrant d'être dans cette période aussi pour vous? Comment vous vous sentez? Et finalement, est-ce que c'est bien ou mal tombé?
Est-ce que c'est bien tombé ou mal tombé? Bon, de toute façon, la situation est telle quelle, hein, on ne peut pas la maîtriser malheureusement. Mais l'histoire est qu'avec Christophe, on a vraiment pu se concentrer à 100% sur notre projet. On n'avait pas l'état d'esprit occupé rue Beethoven. Et je rebondis simplement sur la question d'avant. Donc le besoin de déménager, on avait un espace un petit peu restreint. Et on a vraiment senti par rapport à nos clients qu'il y avait une attente un petit peu par rapport à nos équipes. Et on voulait apporter des conditions de travail beaucoup plus agréables. La cuisine faisait par exemple 16 mètres carrés. On avait un petit espace pour la cave à vin. Donc voilà, on avait besoin de un petit peu de se projeter sur le futur avec Christophe. Et on travaille ensemble depuis 20 ans. Et on a encore envie de travailler ensemble pour au moins 20 ans. Et donc c'est le projet d'une vie. Et donc réinvestir dans un endroit très petit. Donc c'était un petit peu, voilà, on s'est posé la question. On avait vraiment à un moment donné de pouvoir se projeter.
Il y avait des limites de la taille, même si vous refaisiez, c'est à un moment on ne peut pas pousser les murs.
On ne peut pas pousser les murs. Ouais. Et donc ça, c'était important. Ouais. Ensuite, le Covid est arrivé. Par rapport au projet, il y a eu bien entendu une période de réflexion. Qu'est-ce qui a changé avec le Covid? Pas grand-chose, puisqu'on avait trouvé l'endroit, on avait trouvé les artisans, on avait trouvé l'équipe a été construite avec que ce soit les bureaux d'études, le designer, l'architecte. Le cuisiniste, voilà, donc l'équipe était telle quelle. Simplement, il y a eu des petites modifications par rapport au tissu, par exemple sur les fauteuils. On était parti sur une texture différente et voilà, on a vraiment fait le choix de prendre des tissus qu'on soit sûr à 100% de pouvoir désinfecter pour rassurer un petit peu les clients. Voilà, on voulait vraiment, c'était des questions qui se sont posées à un moment donné. Il y a eu des choses comme ça en cuisine, bon, par rapport aux matériaux, aux produits. On a fait le choix de faire un entretien à la vapeur pour le restaurant. Il y a eu beaucoup, beaucoup de réflexions. C'était des moments importants. On a pris le temps de bien penser aux choses.
Ça vous a retardé un petit peu, vous disiez
Alors en fait, comme on est quand même des gens consciencieux et sérieux, c'est que tout le gros œuvre a été... on a tout curé, en fait, dernier trimestre de l'année 2019. Quand on a tout désamianté, enlevé le plomb, le gros œuvre en fait était au moment du confinement, du premier confinement. Donc marteau piqueur, perceuse, enfin un gros bazar en fait toute la journée. Et par acquis de conscience en fait, on a stoppé volontairement les travaux à la demande de la copropriété qui était ici confinée avec les enfants et les gens en télétravail. Donc on s'est on a besoin d'une copropriété pour pouvoir travailler sereinement. Et donc, on a décidé d'arrêter les travaux pendant 6 semaines.
Et après, donc ça vous a pris un petit peu de
Alors,
de
ça nous a retardé dans nos travaux, mais bon, il fallait jouer le jeu vis-à-vis des personnes qui habitent dans l'immeuble. Ce qui a été difficile, c'est de remettre les entreprises au travail après le premier confinement. Ça a été vraiment notre combat avec Pascal et d'essayer de pousser... notre architecte justement pour remettre de l'effectif sur le chantier pour faire avancer. Mais ça a été vraiment compliqué jusqu'à début septembre.
Là, on enregistre dans le petit salon entre les chaises qui attendent, le mobilier. Là, comment vous voyez les choses, même si on n'a pas de visibilité au niveau des dates de réouverture, enfin, comment vous êtes projeté sur les semaines à venir?
Là, actuellement, donc, on est début mars, on a des levées de réserve, donc on commençait depuis 15 jours. On espère que d'ici le 15-20 mars, toutes les réserves soient levées avec un restaurant flambant neuf terminé. Donc Pascal a pris possession déjà de la cuisine avec son équipe. La cuisine a été terminée avant que le reste soit fini, donc c'était un peu... inversé dans ce qui était prévu et de ce que nous disent le cuisiniste et les bureaux d'études. Donc au moins ils peuvent se préparer. Et nous, donc une fois que les finitions vont être enfin terminées, on a justement tout notre bazar à ranger, à la fois les nouveaux matériaux, les nouvelles assiettes, les nouveaux fauteuils, les nouvelles chaises et les quelques affaires qui nous restent à Beethoven.
Et vous allez vous imaginer faire de la vente à emporter peut-être pour commencer, enfin... proposer une offre qui est adaptée à la période?
Vente emportée, on travaille dessus, on y réfléchit, bien entendu, on s'est un petit peu renseigné. Au jour d'aujourd'hui, on est dans la phase justement prise de possession des lieux. Donc on a beaucoup de formation par rapport aux équipes, par rapport à tous les nouveaux jouets qu'on a en cuisine, dans notre nouveau terrain de jeu, parce que c'est absolument incroyable. On a un four vapeur haute pression, on aura une braise, on a une plaque EcoTop, on a des machines avec osmoseur. Donc voilà, il y aura un système au niveau de l'informatique assez complexe. Donc on a la formation des équipes, du personnel va prendre un peu de temps. La prise de possession des lieux va prendre un peu de temps. Donc pour l'instant, on est dans cette phase-là encore. Donc on a besoin de plusieurs semaines pour comprendre, pour faire la mise en route des machines.
Une découverte mutuelle du matériel, mais aussi de toutes les équipes, parce que vous avez à peu près 50% d'équipes qui étaient avec vous avant et 50% de nouvelles personnes.
Exactement, voilà. Donc grosso modo, on avait un effectif à une quinzaine de personnes à rue Beethoven, et là on va quasiment doubler. On va doubler ici au niveau des effectifs. Alors en fonction des annonces gouvernementales, bien entendu, on va voir comment on pourra s'organiser. Mais l'idée, la vente à emporter va nous permettre de pouvoir comprendre un peu notre nouvel outil. Voilà, c'est comme ça, on l'accepte et on a envie. Et en plus, voilà, on va tout faire pour mettre en œuvre.
Là, vous n'avez pas cuisiné depuis... Enfin, t'as pas cuisiné depuis un an quasiment ?
Sauf à la maison, mais autrement, oui, professionnellement, depuis un an, on n'a pas cuisiné, ouais.
Ça te manque ?
Oui, bien entendu, il y a un manque. Mais alors, ce qui se passe depuis un an, donc on a la casquette de chef d'entreprise. C'était les réunions très intenses, très agitées parfois depuis un an, que ce soit avec le banquier, le bailleur, le comptable, le bureau d'études, l'architecte, le designer. On a vraiment pris la casquette de chef d'entreprise avec Christophe et on a pas fait notre métier de restaurateur, ni accueillir des clients, ni cuisiner depuis un an, mais on ne s'est vraiment pas ennuyé, bien entendu garder ce lien avec les équipes et avec les producteurs, mais il a fallu jongler avec tout ça.
Ça te manque, Christophe, d'accueillir les clients ?
Ce qui me manque, en fait, c'est justement de ne pas avoir le public, parce que c'est vrai qu'on les a parfois au téléphone, mais ce n'est pas comme on a créé des liens, tissé des liens depuis 20 ans, et c'est devenu, moi je dis toujours, c'est des amis. C'est plus des clients. De toute façon, j'aime pas ce mot client. C'est toujours de recevoir au mieux. Et puis, les gens viennent une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, même s'ils viennent deux fois par an, une fois par an, on est ravis de les retrouver. Et c'est vrai que là, depuis un an, plus les voir, c'est compliqué. Donc, on va faire de la vente à emporter parce que je pense que ça va être un moyen aussi de Pascal de se former en cuisine avec ses équipes. Et je crois vraiment que nos fidèles parisiens vont vouloir venir chercher leur plat à emporter pour voir le lieu.
Tout à fait.
C'est ça qui est primordial, parce que c'est vrai qu'une conversation téléphonique, ça ne remplace pas le fait de recevoir. Moi, je suis toujours avec eux. Donc, c'est vrai que ça manque un peu.
Et ça vous fait peur de prendre possession de ce lieu qui est quand même un peu l'antithèse de la Strasse-Rue Beethoven, où vous doublez d'équipe, vous doublez doubler de surface, ça doit être au moins 3-4 fois plus grand. Ouais.
Oui, c'est 3 fois plus grand, mais je pense qu'il faut qu'on oublie la rue Beethoven. Ça nous a fait travailler et prendre beaucoup de plaisir pendant 20 ans, et à un moment, la page se tourne. Donc elle est en train de se tourner, parce que je vous dis, on est en train de déménager nos derniers cartons, et je pense qu'il faut arriver après en se disant, voilà, rue Beethoven, c'est fini, le bail, c'est fini. Et maintenant, on se concentre vraiment sur la rue de Longchamp.
Et sur les 20 prochaines années.
On a fait avec Cédric Martineau, donc le designer, le chef de projet de 14 septembre, des photos pour le magazine Ideat il y a 3 semaines. C'est la première fois en fait qu'on mettait le restaurant en situation, je parle pour moi dans la salle et pour Pascal, donc de voir le beau parquet, les belles banquettes, les belles tables, les beaux chemins de table en lin, la décoration, le bar, enfin tout développé, on se dit waouh, ça va être canon, c'est très doux, ça va être très doux. Et je pense que le public va être vraiment content.
Le fait d'avoir mis en place le menu surprise rue Beethoven depuis quasiment 20 ans, en fait, il y a 20 ans, on a vraiment voulu s'adapter à l'endroit par rapport à ce qu'on avait appris dans les maisons précédentes. La société était différente. Moi, je venais d'Australie, donc c'était une ambiance, une approche de la cuisine différente, plus décontractée. Et on n'avait pas les moyens humains, les moyens financiers de mettre quelque chose en place de façon très grande. La cuisine était très petite, donc mettre une carte dans une cuisine de 16 mètres carrés, c'était compliqué, que ce soit pour Christophe pour prendre la commande, pour moi pour l'exécuter, c'était compliqué. Donc il y avait des contraintes, on les a acceptées il y a 20 ans et on a appliqué, on a mis des choses en place qui correspondaient à notre façon de voir les choses. Donc le menu unique, c'était le menu du marché, grosso modo.
Est né de ça, de ces contraintes.
Exactement. Et 20 ans plus tard, les contraintes sont différentes. Donc, et surtout, la structure, l'endroit est complètement différent. Donc là, vraiment, une fois de plus, on souhaite s'adapter à l'endroit. Donc on l'a compris quand on a acheté qu'on avait un restaurant sur trois niveaux. Il y a le moisin, c'est toute la technique et la cave. Le rez-de-chaussée, c'est la salle principale plus la cuisine. Et le plus sain, ce sont le petit salon et les toilettes. Donc le petit salon, en fait, c'est quasiment un deuxième restaurant. On va retrouver l'ambiance de la rue Beethoven au salon. Donc c'est le petit salon, ça va être le petit endroit, le restaurant un petit peu cocooning, très intime, avec on voit la cuisine juste à côté. On va cuisiner pour 12-14 personnes. C'est un endroit, soit on va le privatiser, soit on va travailler à la carte. Et également, donc le rez-de-chaussée, ça va être un restaurant de 30 places assises. Et là, moi, j'ai vraiment envie de cuisiner pour les amis, pour les clients, un homard à la vapeur, un homard grillé, des asperges. On va faire une cuisine où les gens ont vraiment envie de revenir plusieurs fois. Donc, c'est l'antithèse de la rue Beethoven. Je ne sais pas. On a mis des choses en place rue Beethoven. Ce restaurant nous a tellement donné. On a pris tellement de plaisir. On a réussi à trouver notre identité. La relation avec les producteurs, avec les clients. Il s'est passé beaucoup de choses fabuleuses pendant 20 ans. Bien entendu, on ne le balaye pas. On va s'appuyer dessus. On va continuer, mais d'une façon différente. Et on va proposer une offre différente. Donc ça, c'est très important. Et on va vraiment s'adapter. On est en 2020. Donc, on a mis le paquet sur un restaurant. Alors, le côté éco-responsable est peut-être un petit peu fort, mais on a, bien entendu, les conditions de travail pour les équipes sont très importantes. Des bonnes conditions pour accueillir nos clients. Bien entendu, le confort a été très important. Le choix des matériaux était très important avec le designer et l'architecte. Le sourcing des matériaux était très important. On a vraiment mis le focus là-dessus.
Pour parler de l'offre qui va évoluer, c'est tu balayes pas ce menu dégustation, vous allez continuer à le proposer, mais vous avez réintégré la carte, je crois, enfin vous allez la réintégrer, un choix à la carte et un choix, je suis en train de chercher, je sais plus, j'avais noté, dégustation à partager. C'est ça.
Alors,
une nouveauté.
On s'est posé la question au moment de se positionner sur l'achat du restaurant. Et on avait vraiment évoqué avec Pascal que le menu surprise, en fait, on l'avait créé sans le créer. C'était pas pour dire on est les premiers à créer un menu surprise. C'est que ça nous allait bien dans les locaux. Mais en parlant avec avec nos convives régulièrement, beaucoup sur les derniers temps venaient pour le menu surprise parce que c'était nous. Certains venaient parce que c'était l'Astrance, donc voilà. Et après, beaucoup venaient parce que c'était parce que ça leur faisait plaisir de nous retrouver et de se dire voilà, on se laisse faire. Et en parlant avec eux, beaucoup insistaient en disant mais vous faites beaucoup de menus surprise dans les autres restaurants. Et en fait, beaucoup disaient non, nous on aime bien choisir ce qu'on a envie de prendre. Il y a une dame qui m'avait dit, moi, aujourd'hui, j'ai envie d'une salade de homard. Je sais que si je viens chez vous, je ne l'aurai pas. Je vais me régaler, mais je n'aurai pas ce que j'ai envie. Et on a vraiment réfléchi avec Pascal sur ça, où en fait, je pense que les gens doivent avoir le choix de ce qu'ils veulent manger.
C'est un changement d'air aussi. Enfin, c'est vrai qu'il y a eu l'époque où on avait envie de découvrir la cuisine du chef et de lui faire confiance. Des fois, on est dans cette humeur-là et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu ce changement où les gens, ils ont envie de se réapproprier le choix et de faire confiance au chef, mais d'avoir un choix aussi.
Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont au restaurant et qui vont prendre le menu parce qu'ils veulent goûter un maximum de plats en petite quantité. Ça, il y en a plein. Après, il y a des gens qui n'aiment pas cette idée de menu imposé et qui veulent se dire « moi, j'ai envie de me faire deux entrées et un petit poisson, ou je veux me faire un plat et trois desserts », ils font ce qu'ils veulent. Je pense qu'il faut redonner le choix aux gens.
Et ce menu dégustation à partager, alors, qu'est-ce que c'est ?
Là, je vais laisser Pascal.
En fait, donc, il y aura le menu au déjeuner, plus une carte. Il y aura le menu Astrans au dîner, plus la carte. Et donc, c'est-à-dire que les clients auront le choix soit de vivre l'expérience comme il y avait à Eurobeethoven, soit à la carte. Mais il y aura également beaucoup de cuissons, je pense à des pièces à la vapeur ou un carré d'agneau ou d'autres produits qui sont vraiment cuisinés. On va, bien entendu, on va se concentrer sur la cuisson et les clients pourront commander une assiette, alors soit une assiette autour d'une cuisson à la vapeur, soit une assiette autour d'une cuisson à la braise, ou alors autour d'un légume, ou autour d'une entrée. Et donc, les clients pourront partager les plats, s'ils le souhaitent. Ça, ce sera possible.
Mais la carte, ça ne va pas être une carte figée
Elle sera en mouvement, bien entendu.
Elle sera en mouvement,
bien entendu. Il y a toujours ce côté un petit peu instinctif, relation avec les producteurs. Il y aura un petit peu le côté spontané, bien entendu, ouais. Après, il va falloir trouver le juste milieu entre comment déléguer tout ça, parce que c'est une grosse machine. Hein. Au total, on sera quasiment une trentaine d'employés. Donc, on est vraiment conscient que par rapport à la rue Beethoven, cuisiner pour 24 personnes et cuisiner pour 45 personnes, ce n'est pas du tout la même chose, surtout sur deux niveaux. Et on est conscient et on a pris les équipes pour, on a du renfort et on fait vraiment confiance à nos collaborateurs.
Tu disais tout à l'heure, en faisant visiter la cuisine, que là, bah, vous allez avoir des postes, des grades, en fait, que vous n'aviez pas aussi avant, du fait que l'équipe était toute petite, et ça va changer aussi.
Ça va beaucoup changer. Bon, alors, bien entendu, à Beethoven, on a toujours du responsable, hein, que ce soit en sommellerie ou en pâtisserie ou en cuisine, mais les responsabilités étaient différentes parce qu'on cuisinait d'une façon différente. Il y avait pas la carte. Au niveau des stocks, c'est moi qui gérais tout. Donc là, on va gérer ensemble et il y aura des responsables à chaque poste. Il y aura des responsables de temps en temps, quand le salon sera privatisé, il y aura un responsable pour la cuisine du salon parce qu'on a deux cuisines. Il y a la cuisine du rez-de-chaussée et il y a la cuisine du salon. C'est-à-dire que quand on privatise le salon, on privatise également les cuisiniers avec. Et donc, on sera capable de travailler sur un menu tout légumes ou sur un menu autour des vins ou pour une marque ou voilà, ou suivant le client ce qu'il souhaite ou alors de façon cocktail. On sera vraiment à l'écoute des clients et par rapport à leurs besoins.
Est-ce qu'on va retrouver des classiques à la carte ?
On ne sait pas encore.
On
ne sait pas, on y travaille, on réfléchit. Pour l'instant, on est sur la phase découverte de l'endroit et découverte des équipements et du matériel et des collaborateurs.
Et tu vas quand même rester sur ce que tu disais, un fort accent sur la philosophie finalement, elle ne va pas changer, elle va pas changer complètement.
Non, on est dans la continuité. Il y aura bien entendu ce gros travail sur la cuisson, sur le produit, toujours le sourcing, la relation avec ses producteurs. Ça, c'est un peu l'identité d'un chef, hein, d'un restaurant. Il y a cette complicité depuis quasiment 20 ans avec beaucoup de nos producteurs. Donc ça qui va perdurer, bien entendu. Ça, c'est un petit peu, justement, et on repart pour 20 ans encore. Hein, ça, c'est clair et net. Il y aura cette cuisine, bien entendu, très condimentée sur les agrumes, les herbes, les épices, le sauvage. Vraiment, on va continuer cette petite influence avec des notes un petit peu... Voilà, des techniques qui pourraient venir d'Asie, cette cuisine un petit peu très parfumée, assez colorée, que ce soit sur le floral, sur l'acidité, sur les huiles, voilà, on va sur le piment, beaucoup bien entendu, toujours qui sera présent. Et quand on disait par exemple une cuisine à partager, on va prendre un carré d'agneau ou un homard ou une belle asperge. Et ensuite, il y aura peut-être deux ou trois petits condiments sur table qui vont venir avec, que ce soit une vinaigrette aux agrumes ou un pesto d'algues ou une petite sauce sésame piment. Voilà, on va vraiment jouer là-dessus.
L'Astrans, c'est une fleur sauvage, je lisais dans le dossier de presse. Fleur sauvage et vivace à l'apparence simple et épurée qui repose pourtant sur une grande sophistication. C'est comme ça que vous avez imaginé à l'origine la cuisine, le restaurant.
L'idée, c'est qu'on cherchait un nom de restaurant avec un A. Et très honnêtement, ce n'était pas évident de... On voulait être dans les premiers, dans le bottin, enfin dans les trucs comme ça à l'époque.
C'était pour ça,
c'était d'être dans les premiers. Et en fait, Pascal est d'Auvergne. Et en fait, j'étais parti avec mon épouse il y a 20 ans. Faire une randonnée avec Eric Vallée, qui est aujourd'hui que connaissait très bien Pascal et qui est devenu un grand copain. Et on avait fait une balade toute une journée. Et au retour de notre balade, il y avait un parterre de petites fleurs blanches qui étaient magnifiques. Et il me dit, c'est la Grande Astrance. Et j'avais dit, tiens, Astrans, c'est pour... j'avais écrit.
C'est parfait.
Et je trouvais joli. Et Pascal, qui était encore à l'époque, enfin, qui était resté à Paris, avait été à l'INPI vite fait pour voir si Astrans était déposé pour un restaurant, mais personne ne connaissait Astrans. Et c'est parti de ça.
Un nom qui vous a porté chance.
Absolument, complètement.
Mais c'est comme ça, c'est un choix de nom, mais en même temps, ça exprime quand même, j'ai l'impression aussi... un peu ce que vous avez voulu faire dans le restaurant, dans la cuisine, ce côté sophistiqué, un peu caché.
Sophistiqué, oui. Caché,
caché. Épuré.
Épuré, oui. Épuré parce que c'est la cuisine de Pascal. Épuré en service pour pas faire de chichi pompon, parce que ça, je pense que les gens, bon, il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment moins bien. Je pense qu'il faut s'adapter aussi à l'époque. Et nous, on a toujours été décontractés dans la façon de recevoir, de servir. Et je pense que les gens ont vraiment beaucoup adhéré à ça, parce qu'on a pu avoir un public des grands hôtels parisiens qui voyagent dans le monde entier, habitués à de nombreux restaurants, et de venir dans notre petit local rue Beethoven. Donc, je pense que il faut être comme on est. Il faut pas vouloir se dire je vais faire comme Monsieur ou Madame Y, et je pense que les gens adhèrent ou adhèrent pas, mais on a été complet tout le temps, pendant 20 ans, tout le temps complet. Donc c'était, à mon avis, un signe.
Et ça, vous allez cette simplicité aussi d'accueil qui reste hyper professionnelle, mais quand je dis simplicité et bienveillante...
Après, c'est notre personnalité. Voilà, donc
votre personnalité, ça, vous allez...
On ne va pas changer notre personnalité parce qu'on a un nouveau lieu, au contraire. Mmh. Il faut toujours être comme on est, ne surtout rien changer, pas prendre la grosse tête ou pas se dire, on a un grand restaurant, on est des caïds. Au contraire, il faut rester les pieds sur terre. Je pense que ça, c'est le plus important, chaque jour.
On va accentuer cette simplicité, même justement, que ce soit quand on a bien entendu fait les premiers rendez-vous avec le designer, on a de suite voulu essayer de garder cette transparence. Donc, que ce soit entre la relation entre la salle et la cuisine, entre justement le petit salon et la cuisine pareil, on a mis un ascenseur transparent, garder le côté vitré, on a changé la façade. Voilà, l'idée, c'est d'accentuer cette transparence. On n'a rien à cacher et on sera à l'écoute de nos clients et on sera toujours présent pour les accueillir. Ouais.
Et tu parlais aussi tout à l'heure de mélanger les équipes. Tu as forcément les équipes de salle et de cuisine, mais qu'elles se mélangent, qu'elles se parlent, qu'elles collaborent vraiment aussi ensemble.
Oui, donc quand on a fait le projet, donc on était en phase encore d'études avec le bureau d'études cuisine et le designer et Christophe. Donc ensemble, on a réfléchi, on s'est appuyé sur la rue Beethoven. On avait cette petite cuisine où le responsable au froid, je l'appelle froid parce qu'on n'a pas eu de chef pâtissier pendant 20 ans, également s'occupait que ce soit les entrées, les petits snacks et les desserts. Et tout sortait du même endroit. C'était produit et ça sortait du même endroit. Donc ici, on a bien entendu, on aura un endroit pour préparer la pâtisserie. On aura un endroit pour préparer également les snacks ou les entrées, ce qu'on appelle ça le poste du garde-manger. Mais en fait, ça va sortir du même endroit. Ce sera le même espace, donc vitré, devant la salle de restaurant, où les clients pourront voir les cuisiniers travailler. Et les personnes en salle donc, vont pouvoir venir prendre les préparations et les mettre en salle. Donc la pâtisserie et le garde-manger sera mélangé. L'office est mélangé dans la cuisine, c'est-à-dire que l'officier, la personne qui fait le café, qui va faire l'eau et le pain, sera dans la cuisine. Donc ça, on a voulu qu'il y ait justement cette complicité, cette relation au niveau des équipes. C'est très important pour nous. Ouais.
Et je ne sais pas si on peut rapprocher ça, mais ça me fait penser aussi au fait que vous vouliez avoir une espèce d'égalité entre les produits aussi et qu'un un macro il soit égalité avec un homard.
Oui, tout à fait. En fait, j'aime à dire toujours souvent tous les produits sont égaux. Simplement, en disant ça, je demande aux cuisiniers d'attacher la même importance à un oignon, une botte de persil qu'à une langoustine ou un carré d'agneau. La cuisson d'un riz, extrêmement importante, la cuisson d'un caramel, la cuisson d'une friture, la cuisson donc d'un sucre, d'une sauge, je ne sais pas, voilà. On va attacher la même attention à une fraise qu'à un turbo. Un macro a autant d'importance, un beau macro peut être un produit noble. Une truffe noire, c'est quelque chose de très bon, mais la truffe noire, elle est bonne, elle a une saison, il y a une maturité, il y a un terroir. C'est pas parce que c'est marqué truffe noire sur le menu que le plat devient magique automatiquement. La truffe noire, ça peut être une fausse, elle peut être pas mûre, trop mûre, elle peut être... voilà, et on peut se régaler avec un très très bon maquereau quand il est au summum. Il a été pêché dans les règles de l'art, il a été cuisiné ou cru ou en carpaccio, ou voilà. Il a été préparé avec beaucoup de soin et beaucoup d'attention. Un oignon également, on peut ciseler joliment un oignon sans le blesser, sans faire sortir le jus, soit le servir en salade ou le faire rôtir, ou on picole de façon pour le conserver. L'oignon peut jouer le rôle de l'ingrédient principal sur l'assiette. Ou alors peut jouer le rôle d'un condiment, d'un assaisonnement. Donc, je pense à la truffe. La truffe, c'était la pomme de terre du pauvre il y a plusieurs siècles. Pourquoi il y a autant de recettes dans la cuisine française à base de truffe noire ? Parce qu'il y en avait beaucoup il y a plusieurs siècles. C'est simplement cette raison. Avant, on met des truffes noires partout parce qu'on ne sait pas quoi en faire. C'était une omelette aux truffes, des œufs brouillés aux truffes, un riz aux truffes, des pâtes aux truffes. Voilà.
Ça a bien changé.
300 ans plus tard, c'est une histoire d'offre et de demande. Le paysage français a changé. Il y a moins de haies, moins de chênes truffiers. Donc, il y a, voilà, la truffe, ça a changé, ça a évolué. Quand on regarde des recettes sur Escoffier, on faisait des clarifications avec le caviar. Donc aujourd'hui, on ne peut pas raisonner comme ça, si vous voulez. Donc c'est une histoire d'offre et de demande. Donc je demande aux cuisiniers d'être vigilants là-dessus. Ça, c'est très important. Tous les produits peuvent être nobles. Tous les produits ont besoin d'être respectés. Ça, c'est très important. Un maraîcher passe tellement de temps à faire pousser ses légumes, ses herbes. C'est un travail titanesque. Un producteur de miel, un producteur d'agrumes, ça représente une somme de travail colossale, un savoir-faire colossal. Et donc, on doit respecter le travail de ces gens. Ça, c'est très important.
Vous allez travailler, tu vas travailler avec les mêmes producteurs ?
Ah bien entendu, oui. On va s'appuyer, ouais. Ça c'est vraiment notre noyau, c'est le noyau dur de l'Astrance, c'est le réseau des producteurs, ça c'est sans eux on n'est rien, ça c'est très important. Et on va justement, là où je suis content et fier, c'est on va cuisiner pour un plus grand nombre de clients, donc je pense qu'on pourra encore plus soutenir nos producteurs, donc ça c'est une fierté.
Ouais. J'ai une tradition dans mon podcast, c'est que j'ai une interview dans l'interview. Si vous répondez du tac au tac, votre âge
48 ans.
50 ans fin avril.
Votre plat signature, bon, je ne sais pas si tu en as un, mais.
Le magret de canard grillé.
Mon plat signature que je fais,
oui.
Je vais dire sorbet piment, ou soupe au pain, il y en a plusieurs. Voilà.
Et ton plat préféré à manger ?
Salade de carottes râpées. Ah ouais, je suis contente.
Christophe ?
Moi, j'adore les crevettes et j'adore la sauce saté que fait Pascal, donc petite sauce cacahuète légèrement épicée avec une pâte de crevettes, j'adore ça.
Le chef ou restaurateur que vous admirez le plus ?
J'ai une énorme admiration pour Monsieur Vrina, qui m'a reçu et qui venait nous voir au début, quand on était ouvert le week-end rue Beethoven, et qui m'a un jour accueilli avec mon épouse, j'y pensais ce matin, sachant qu'on allait se voir. J'avais réservé un lundi midi, on était fermé à l'époque le lundi, j'avais réservé un lundi midi en disant c'est l'anniversaire de mon épouse. Enfin, on n'était pas encore mariés, mais c'était l'anniversaire de Valérie. Et à la réservation, donc ce n'était pas Monsieur Vrina qui prenait les réservations, et on était arrivé, donc on avait 28 ans, et il avait sorti une bouteille, je ne me souviens plus, mais un Bordeaux de 1970, il s'était dit, à mon avis, elle doit être de 70, et la bouteille était sur table. Et on m'avait dit on avait dit à Valérie avec les compléments de M. Vrina. Et j'avais trouvé ça grandiose. La notion de recevoir était exceptionnelle. Et après, dans les chefs, moi, j'ai une admiration toute particulière pour M. Pierre Gagnère.
On a le droit d'en citer plusieurs ou
oui.
Pas, c'est vrai. Non, mais c'est impossible. C'est une question impossible pour un cuisinier. Michel Guérard. C'est vraiment Michel Guérard, Michel Brass, Pierre Gagnère. C'est vraiment waouh, c'est des légendes pour moi. Quoi. Ouais. Et après, il y a également le chef Passard, où j'ai beaucoup appris auprès de lui. Ouais.
Oui, où tu as travaillé pas mal de temps.
5 ans, oui. Mais bon, après, il y a beaucoup de chefs à l'étranger également, où j'ai beaucoup d'admiration pour eux. Ouais, ouais.
Votre ingrédient préféré ?
Oh, pareil, c'est impossible. J'ai envie de dire gingembre, piment, citron.
Christophe ?
La cacahuète.
Ça rejoint le c'était logique. Et votre ingrédient détesté ?
Le fenouil. J'aime pas tout ce qui est trop panisé.
Alors j'ai la chance de tout aimer. Un ingrédient détesté, j'en ai pas. Par contre, ce serait peut-être des textures, des fois, qui pourraient me perturber un petit peu.
Comme quoi ?
Le gluant. Le gluant sur des préparations sur la cuisine asiatique, mais qui sont également intéressantes, justement, toute une histoire de dosage. Et je pense que ça, c'est quelque chose que nous, en tant que cuisiniers, on doit vraiment intégrer, surtout dans la cuisine occidentale, la cuisine française, on doit intégrer un petit peu plus. Ça, c'est ce que j'aime apprendre sur la cuisine asiatique, les textures. Le côté chewy, un petit peu résistant sous la dent, élastique, gluant, très croustillant, très compact. Et également, des choses qu'on va mettre en place ici à Nouvelle Astrance, ça va être la température de service des plats. On n'a pas pu mettre en place ça sur la rue Beethoven parce qu'on n'avait pas l'espace. Un plat très froid, un carpaccio un peu soit à température ambiante ou très chaud. Voilà, on va vraiment se concentrer un peu plus sur la température des mets.
Votre ustensile fétiche ?
Alors, très facile, c'est des baguettes pour cuisiner.
Et moi, je mange aux baguettes.
Aussi.
Donc, ouais, aussi, ouais, j'aime beaucoup.
Je croyais que t'allais dire le tire-bouchon.
Non, Alexandre est meilleur que moi pour ça. Je fais juste une petite parenthèse sur ce que disait Pascal tout à l'heure, ce que je trouve très important sur les produits tous égaux. Moi, je vais attacher autant d'importance à une personne qui va prendre une bouteille de vin très très chère et quelqu'un qui va pas prendre de vin ou qui va me dire on va prendre qu'un verre de vin. Et c'est pas pour ça qu'on va moins s'en occuper. Pour moi, c'est très important.
Égalité des clients aussi.
Exactement.
Le dernier meilleur repas que vous ayez fait ?
Ça remonte à loin. Le dernier repas que j'ai fait, moi, je vais dire avec ma compagne. Voilà.
À la maison. Qui c'est qui cuisinait ?
On cuisine tous les deux.
On a été invité par un de nos fidèles amis il y a un petit peu moins d'un an, chez Monsieur Ducasse au Plaza Athénée. Et j'avoue que ce soir-là, on a fait un excellent dîner, exceptionnel.
Le meilleur compliment qu'on vous ait fait ?
Pour moi, c'est que les gens reviennent au restaurant. C'est pour moi le plus beau des compliments, parce que c'est que tout s'est bien passé. Et je vous disais tout à l'heure, cette notion de contact et de relation fait que tout est dit.
On a bien fait de s'associer. Hein. En fait, c'est quand est-ce qu'on peut revenir ? Voilà, c'est le plus beau des compliments. Quand est-ce qu'on peut revenir ?
Et la pire critique, il y en a une qui vous a marqué ou...
Des critiques blessantes, peut y en avoir, mais bon, il ne faut pas s'arrêter là-dessus, il faut s'en servir pour pouvoir avancer. Et après, en fait, moi, je dis, j'ai la conscience tranquille. Très souvent, c'est ce que je dis à mes équipes, à nos jeunes. Voilà, je sais que notre produit, il est au top. On sait d'où il vient, on sait qui l'a fait. On a fait le maximum sur la cuisson, l'assainement, la découpe. Moi je comprends qu'un client n'aime pas l'amertume, n'aime pas le piquant, n'aime pas l'agrume. Ça c'est une histoire de goût. Hein. En fait, quand la critique est juste, je l'accepte. Quand la critique est injuste, c'est difficile. Ouais.
Moi, c'était les derniers temps rue Beethoven où justement le restaurant était vieillissant puisque justement on était en recherche. Et de voir des gens qui venaient pour la première fois et dire c'est moche. Et en fait, c'est moche parce que c'était vieillissant et parce que c'était dans son jus et parce que justement, il y avait ce projet qui n'était pas encore arrivé, mais qui était en prévision, qu'on ne savait pas encore. Et quelqu'un qui vous dit c'est moche, en fait, c'était notre maison, quoi. Et ça, c'est blessant. Donc, il y a des gens aussi qui sont méchants. Ou j'ai pas envie de ce menu surprise, ou je viens pas pour manger du macro, alors qu'il y a des gens qui venaient exprès pour manger le macro. Donc parfois il y a un public aussi qui est pas
dur,
très
ouais.
Sympa, un peu dur, et il faut faire avec.
Que représente la cuisine pour vous aujourd'hui ?
Alors moi j'adore bien manger, j'adore goûter, donc je pense que la cuisine a énormément évolué depuis ces dernières années et donc je pense qu'il y a de la place pour toutes les cuisines différentes. Après, bon, il faut que ça soit bien réalisé, bien évidemment. Mais je pense qu'il y a tellement d'adresses en France et dans le monde entier qu'on ne les fera jamais toutes. Mais ça bouge dans tous les sens. Et c'est ça qui est extrêmement bien.
La cuisine, bien entendu, c'est on a cette chance de faire ce métier absolument incroyable. La cuisine, c'est l'association de différents métiers, donc que ce soit le service, que ce soit mettre les arts de la table en avant, mettre nos producteurs en avant, nos vignerons, tout ça c'est très important. Également, faire comprendre aux gens donc cuisiner, c'est un rôle important. En tant que cuisinier, on a un rôle sociétal important. Donc, c'est de donner l'envie aux gens d'aller à la rencontre des producteurs, aller sur les marchés, cuisiner. Cuisiner, ça peut être un geste simple. Hein. Tout à l'heure, je disais, j'aime une salade de carottes râpées. Voilà, et simplement un bon produit, une jolie courgette, un poisson simplement cuit à la vapeur avec une bonne huile d'olive. Voilà, ça, c'est déjà l'acte de cuisiner. Donc, ça, c'est très important. Également, donc, c'est respecter les autres. Cuisiner, pour moi, c'est respecter que ce soit nos équipiers, que ce soit le produit, le producteur, le client, la personne en salle, le service, le vigneron. Voilà, donc ça, c'est cuisiner, ça représente beaucoup de choses.
Et comment vous vous présentez aujourd'hui ? Enfin, on vous connaît, mais si vous croisez quelqu'un qui ne vous connaît pas, est-ce que vous dites que vous êtes restaurateur, cuisinier, chef ?
Moi, je dis que je suis restaurateur, oui. Bon, je ne suis pas chef. J'adore faire la cuisine, mais je ne suis pas chef. Mais non, je suis restaurateur. On est à la fois restaurateur, Pascal est chef de cuisine, et on est entrepreneur. On a 30 personnes, on a beaucoup d'administratifs, beaucoup de travail en amont, beaucoup de travail pendant la journée. On est chef d'entreprise, donc on a la chance d'être indépendant. Je souhaite de tout cœur qu'on le reste tout le temps, parce que on décide de tout tous les deux. On n'a personne qui nous dit il faut faire ci, ça ou tu me remets plus de couverts ou vous restez ouvert 7 jours sur 7, pas de vacances ou machin. C'est notre choix. C'est notre travail à tous les deux.
Tu te présentes comment, toi ?
Pareil. Donc exactement, je rejoins Christophe, chef d'entreprise et je suis cuisinier. Je suis cuisinier, ouais.
D'abord chef d'entreprise ou d'abord cuisinier ?
Et ça dépend des moments, à quel moment de la journée. Ça, c'est une très bonne question. Comme on vous disait tout à l'heure, pendant le Covid, on était chef d'entreprise. Voilà. Les week-ends et les lundis, quand c'est repos, on est chef d'entreprise. C'était les rendez-vous, c'était tout ça. Chef d'entreprise le matin et puis alors cuisinier de 11h à 15h et de 19h à minuit. Quoi. C'est vrai que la frontière entre vraiment le chef d'entreprise et le cuisinier, ou que ce soit Christophe, le manager, ou qui accueille les clients en salle, elle est vraiment, des fois, elle est infime. Et c'est à nous justement de trouver de régler le curseur, de trouver la juste balance. Ça, c'est très important. Ouais. En fait, il faut prendre du plaisir. Ça, c'est le plus important. Sans plaisir, on ne peut pas accueillir nos convives de façon incroyable. Et il faut prendre le plaisir. Ça, c'est très important. L'avenir, moi, je suis excité, angoissé. On va être audacieux. Donc ça, c'est très important pour nous. Excité à l'idée d'avoir une nouvelle équipe, un nouvel endroit, nouvelles propositions. Audacieux, on sera audacieux. Audacieux, on va proposer beaucoup de choses nouvelles. Enfin, nouvelles, ou c'est pas l'idée d'être nouveau, mais vraiment beaucoup de choses. On va s'adapter à notre époque. On va s'adapter à nos locaux, s'adapter à nos équipes, s'adapter à vraiment la situation telle qu'elle est après un an de Covid. Et angoissé, parce que bien entendu, on est toujours un petit peu angoissé. Hein. Y a toujours cette petite boule au ventre ou ce petit trac avant le service, avant la mise en route des machines, avant qu'est-ce qui va se passer, comment vont réagir les clients, nos équipes, nos producteurs. Enfin voilà, il y a toujours cette petite part d'incertitude, quoi, de doute. Moi, je suis quelqu'un qui... Voilà, je doute sur la cuisine, sur une recette. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que ça va plaire ? Est-ce qu'on fait les choses bien ? Donc toujours, je m'interroge, ça c'est important. Ouais. C'est ce qui nous permet d'avancer, je pense.
On a tous les deux une part de responsabilité dans la mesure où on est indépendant. Et que là, par exemple, on va avoir une trentaine d'employés. On a nos crédits qui sont sur le dos. On a le public qui arrive au restaurant. Et en fait, c'est nous qui sommes responsables de tout ça. Donc je pense qu'il faut être responsable tout le temps. Tout le temps. On n'a pas le droit à l'erreur, quelque part. On n'a pas le droit de planter quelqu'un de l'équipe. On n'a pas le droit de mal se comporter. En fait, on doit chaque jour être au top pour arriver à tout gérer, quoi.
Ah, la cuisine, comme tu dis, la cuisine et le restaurant, c'est de la responsabilité. C'est aussi beaucoup de transmission aussi chez vous. C'est vrai que j'ai interviewé pas mal de vos anciennes, Adeline Grattard, Tatiana, Aleva ou Manon Fleury. Vous avez aussi beaucoup de grands, enfin, il y a aussi beaucoup d'autres grands cuisiniers qui sont passés à la Strance. C'est quelque chose qui est très important dans la maison.
Moi, je trouvais que ce qui était très important, c'est qu'on a toujours... on avait notre bureau qui était au-dessus du restaurant. Et en fait, chacun nous voyait travailler. Avant le service, après le service ou le soir. Et tout était transparent. Donc, comment marche... vos systèmes de facturation, comment marche votre logiciel de caisse, comment est-ce que vous faites pour commander vos vins, comment est-ce que vous gérez les vins qui sont au chemin des vignes, et de leur expliquer en fait comment on faisait. Je veux dire, il n'y avait rien de secret. À quelle date vous payez vos factures, comment vous faites en chèque, en virement, machin. Et chaque personne de l'équipe qui voulait poser ces questions pouvait. Et je trouve que c'est aussi de leur montrer comment le restaurant fonctionne et de nous voir être là du matin au soir, de fermer l'après-midi, de revenir à 6 heures, de repartir à la fin, c'était de leur dire que voilà, c'est un métier, il n'est pas facile, il est super, mais c'était de leur montrer que, comment ça fonctionnait. Et après, il y en a beaucoup qui se sont préparés comme nous, on s'est préparé avec l'expérience qu'on avait avant.
Donc la transmission, c'est extrêmement important. On a besoin de s'appuyer sur nos collaborateurs, sur les personnes qui travaillent avec nous. Et comme Christophe l'a mentionné, on a besoin de leur expliquer pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça. Voilà, et on n'a rien à cacher. Donc ça, c'est très important. Ouais.
Et c'est quelque chose que vous avez appris de vos précédentes expériences, que vous avez développé, que vous aviez souhaité développer?
Moi, j'ai commencé la cuisine à 14 ans et j'ai eu cette chance très jeune d'être dans des belles maisons. Et justement, j'ai beaucoup appris auprès des chefs, auprès des restaurateurs. Et comme Christophe le disait, on est toujours là. Moi, je n'ai jamais loupé en 20 ans à Beethoven, j'ai jamais loupé un service. Hein. On n'a jamais loupé un service. Toujours présent et donc on était là pour montrer l'exemple et transmettre à nos équipes, ouais, et échanger ensemble, ça c'était très important. Donc là on va continuer, ça c'est quelque chose. Alors on a toujours eu la chance d'avoir beaucoup de jeunes de talent et je pense que le mérite leur revient à eux parce qu'ils ont été curieux, ils sont accrochés parce qu'il y a des moments difficiles, hein, je veux vraiment être très honnête, je suis pas facile je suis très exigeant avec eux. Exigeant avec moi-même, exigeant avec les gens avec qui on travaille, avec les producteurs. Et en fait, toujours dans le seul objectif, c'est de satisfaire le client. Donc, c'est d'aller chercher la perfection sur une cuisson, sur la qualité d'un produit, sur une prestation, sur un service. Je ne suis pas exigeant pour embêter les gens, ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est d'être performant.
C'est une pression, justement, de satisfaire les gens, de que tout soit le plus parfait possible.
Une pression, alors on se met la pression tout seul, c'est simplement un objectif. Un objectif, c'est voilà, de satisfaire les clients et c'est d'être vraiment leur proposer une prestation, que ce soit au niveau du service, de qualité, mais toujours avec le sourire et le plaisir.
Dans cette transmission, il y a beaucoup, tu disais Christophe, il y a 50% de l'équipe qui est féminine aussi.
Oui, en fait, on a la chance d'avoir... des jeunes femmes de qualité, des jeunes filles qui sont à l'école, donc que j'ai pris en apprentissage, et ça va être de justement leur transmettre notre façon de penser, notre façon de travailler. Et je pense que c'est important d'avoir des jeunes de 20 ans comme des personnes qui ont 40. Je pense qu'il faut mélanger justement tous les âges, ces générations qui sont différentes, et je veux que chacun en fait apporte sa propre expérience. Il n'y a pas que moi, c'est un travail d'équipe. Alexandre, notre sommelier, est très doué pour justement transmettre sa passion. Et donc, il va autant expliquer aux convives qu'à l'équipe, qu'à ses sommeliers, qu'aux personnes de la salle, parce que ça, c'est très important. Et c'est ce qui fait marcher une équipe.
Mais vous avez toujours cherché à avoir des femmes dans vos équipes ou c'était un hasard, c'est venu...
Alors, Pascal a toujours eu plus de filles que moi en salle, parce que c'est vrai que c'était la demande qui était peut-être différente à cette époque. Là, on va avoir plus de facilité. Enfin, on aura une équipe plus grande, donc il faut aussi, je pense, que les femmes soient intégrées en salle et en cuisine. Il n'y a pas que le travail de l'accueil. Donc voilà, c'est pour ça que ça va être sympa. Et puis, c'est important d'avoir des femmes dans une équipe.
En cuisine, les choses se sont faites naturellement. Simplement, on reçoit des CV, des candidatures. Et ensuite, moi, ce qui m'intéresse, c'est la compétence de la personne, tout simplement. Hein. C'est pas, et après, très souvent, c'est vrai que les choses se sont naturellement équilibrées. Voilà, dès le départ, Adine est venue des départs. Il y a eu Rosemary, une jeune femme du Chili, qui a commencé. et qui était compétente, qui a cuisiné à la viande, et voilà, enfin, je parle d'il y a 20 ans. Hein. Donc,
mais ce qui était... C'est pour ça que je le souligne aussi, parce que je pense que ce n'est pas le cas dans toutes les maisons de ce niveau, d'avoir autant de femmes en cuisine. Et...
Bah, en fait, vraiment, le jugement, enfin, mon cuisine, la question se pose pas, si vous voulez. Moi, c'est la seule obsession, c'est la compétence de la personne. Si la personne est compétente, que ce soit une femme ou un garçon, c'est pas le sujet. Et j'ai autant de plaisir à travailler avec l'un ou l'autre. Et alors, quand les équipes sont équilibrées, c'est encore mieux. Et il y a des jeunes, j'ai le souvenir d'avoir créé un poste au niveau des légumes pour Chloé Charles, qui a travaillé avec nous il y a peut-être 15 ou 18 ans. Elle avait une compétence et j'étais frustré de ne pas pouvoir lui donner des responsabilités. Et elle était aux entrées et aux desserts et elle était vraiment, elle avait envie d'apprendre, de performer.
Elle avait raconté dans, j'avais interviewé,
ah ouais, c'est vrai.
Elle avait raconté qu'elle avait vraiment voulu.
Ah, elle avait faim, elle avait vraiment envie. Hein. Ouais. Et j'ai le souvenir d'avoir créé ce poste des légumes pour elle et ensuite par la suite tous les stagiaires, que ce soit de toutes les écoles avec qui on a travaillé, avec l'Institut Paul Bocuse, avec Ferrandi, Cordon Bleu, une école de jeunes japonais. Et beaucoup de stagiaires ont eu la responsabilité de ce poste et les gens se battaient pour l'avoir. Et beaucoup de personnes y sont passées. Hein. Alors Adeline, après, je me souviens, était au cuisson, au poisson, cuisson viande. J'ai été très, très dur avec elle, très exigeant. Il y a eu en famille, bon, je ne vais pas les citer parce qu'il y en a eu tellement, mais que ce soit à l'étranger. Mais vraiment, j'insiste sur le fait que ce soit la compétence de la personne qui prime.
Il y a aussi quelque chose qui est très important, je crois, à l'Astrance, c'est le repas du personnel. Ça va continuer.
Oui, ça va continuer parce que c'est vrai que c'est le seul moment où... Alors bon, avant, on faisait, il y avait une différence avec... on n'avait qu'une grande table ronde qui pouvait accueillir. Allez, on était 10. Donc c'était un peu touche-touche. Et puis c'était par roulement. Et puis celui qui n'avait pas envie de venir, donc il mangeait en cuisine ou dans la cour ou sur son poste de travail. Donc... c'est quand même pas très cohérent. Et là, le fait d'avoir quand même plus d'espace, on a envie que tout le monde se rejoigne. C'est leur moment. Donc, même si ça dure que 20 minutes ou 30 minutes, au moins, ils mangent chaud, ils sont bien installés. Et puis, y a cette relation aussi qui est importante. Parce que je pense que dans un restaurant, tout le monde doit bien s'entendre. On n'en est plus à envoie le plat chaud parce que c'est la salle qui vient le chercher, ils vont se brûler, on s'en fout. Je veux dire, c'est un travail commun. Tout le monde va dans le même sens. Donc, en plus, là, ici, il y a autant de transparence qu'il faut que tout le monde s'entende bien. Et puis, il faudra gérer 30 personnes. Mais je veux dire, s'ils sont suffisamment intelligents, tout le monde va bien s'entendre, justement.
Et pour revenir au repas du personnel, l'idée, c'est découvrir des nouvelles saveurs. C'est chaque cuisinier fait à tour de rôle un plat.
Alors, j'ai travaillé dans la marine, donc j'étais cuisinier sur un bateau. On était trois en cuisine pour 60 personnes sur un bateau en Nouvelle-Calédonie sur le Jacques Cartier. Et donc, de suite, le repas sur un bateau, c'est le moment le plus important de la journée. Et donc ça, j'ai pris conscience rapidement de ça. Et c'est vrai que pour nous, au restaurant, dans un restaurant, le repas des équipes, enfin, du personnel, le déjeuner ou le dîner, c'est un moment très important. Notre métier est assez dur, c'est assez physique, psychologique. Et donc, c'est vrai que déconnecter, relâcher, se poser pendant quelques minutes et bien manger, donc c'est un moment important. Il faut être bien dans ses pompes pour bien cuisiner, bien recevoir nos clients. Ça, c'est important. Et c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir beaucoup de jeunes qui viennent de partout en France ou à l'étranger. Et c'est le moment où les jeunes peuvent s'exprimer. Parce que bon, c'est sympa de faire la cuisine d'un chef, mais bon, et également, ils ont le droit de s'exprimer. On a eu des plats absolument incroyables et ils ont leur mot à dire. Et en plus, on est curieux, on est très curieux et on a envie de découvrir leur culture également et leurs produits. Et donc, on a mangé des trucs de dingue, quoi. Que ce soit des plats d'influence indienne, israélienne, libanaise, italienne, japonaise. Enfin, incroyable. On a eu des repas absolument fabuleux, quoi, au personnel. Et c'est un échange, c'est un partage et c'est vraiment l'ouverture sur l'autre, l'ouverture sur l'ailleurs, et ça, c'est important, ouais. Et ensuite, donc, il y a eu des plats, il y a eu des idées qui ont été, je leur ai demandé autorisation et qui ont été réinterprétées, revisitées et servies aux clients.
Dans la cuisine.
Oui, c'est l'idée. Voilà, là, en ce moment, on fait un ketchup de poivrons. Enfin, on teste. Et ça, j'ai le souvenir d'un, c'est un jeune cuisinier brésilien qui nous a fait ça. Ça m'avait absolument marqué, ébloui, époustouflant. On va faire des lamelles d'épaule de cochon confite. C'est un jeune cuisinier japonais qui nous avait fait ça. Donc, ouais, voilà, il y aura des influences qui vont être revisitées, réinterprétées.
Bon. On arrive à la fin et j'ai une autre tradition, c'est que je demande une recette à faire à la maison. Qu'est-ce qu'on peut faire si on veut les carottes râpées de Pascal Barbeau, par exemple
Non, profitons des derniers agrumes. Je pense à un citron Meyer, vraiment coupé finement en lamelles. On le met à mariner un petit peu sel, jus de citron, huile d'olive. Et ensuite, ça va nous permettre de faire un très bel assaisonnement d'une salade, d'un poisson, d'une salade de carottes râpées. Voilà, ce citron, on va le manger entier avec la peau, le zeste, le jus. Il va venir condimenter une préparation.
Merci à tous les deux.
Merci, à bientôt.
Vous venez d'écouter Pascal Barbeau et Christophe Roy de l'Astrance, épisode 15 de la saison 4. Pour regoûter à leur cuisine en version à emporter, en attendant la réouverture des restaurants, rendez-vous rue de Longchamp dans les jours à venir. Vous pouvez écouter les précédents épisodes sur votre appli préférée ou sur le site apoil-lepodcast.com et n'oubliez pas de vous abonner au compte Apoil Podcast sur Instagram pour ne manquer aucune nouveauté. Cet épisode a été monté par Garance Munoz, musique par Santiago Walsh. À dans 2 semaines pour un nouvel épisode d'Apoil.